Ça bondit, ça tourne, ça virevolte, ça fait peur, ça fait rire, ça émerveille. Pour cette deuxième saison de l'art de passer, nous partons à la rencontre de personnalités des arts du cirque qui œuvrent en Fédération Wallonie-Bruxelles. En toute simplicité, elles nous parlent de leurs pratiques et de leur parcours. Je m'appelle Quentin Lemenu, de la compagnie Les Vrais Majors. Je suis ravi de partager avec vous ces rencontres singulières. Bienvenue dans L'Art de passer, saison 2, et l'épisode commence maintenant. Feria Musica. Ce nom, qui évoque d'emblée des taureaux fous courant dans des rues chaudes et excitées d'Espagne, ou alors ce fameux tube en tétan de Patrick Juvet, est celui d'une compagnie de cirque contemporaine qui a marqué l'histoire. En 32 ans et 6 spectacles, de 1995 à 2017, Feria Musica a repoussé les limites du cirque en créant des œuvres monumentales où se mêlent équitation, musique, acrobatie, danse, théâtre, vidéo, opéra, dans un acte collectif. Pour clore notre deuxième saison, j'ai invité celui qui, avec son complice Benoît Louis, a fondé et porté cette compagnie, Philippe De Koon. Ce trapéziste qui balance sa vie entre Belgique et France n'était pas le plus facile à attraper. On a réussi à fixer un rendez-vous chez lui, dans son repère, en périphérie bruxelloise, par une matinée douce et pluvieuse de décembre. Pour commencer, je me demandais comment quelqu'un qui a été animateur socioculturel et même prothésiste dentaire est devenu circassien à 30 ans, alors que d'autres tirent déjà leur révérence.
Avec mon collègue, on avait envie de bouger un peu, et on était dans un restaurant, le Shanti, à l'époque. La serveuse nous entend parler, nous dit, tiens, il y a une école de cirque qui vient de s'ouvrir, à Ixelles, c'était l'école sans filet, et elle dit, allez voir, ça devrait correspondre un peu à ce que vous voulez faire. Donc je suis allé voir. Il y avait Philippe Underwig, il y avait Vincent Wauters et tout ça au tout début. Mais moi, j'étais beaucoup plus âgé et je ne m'y retrouvais pas vraiment dans ces contacts. Enfin, pas les contacts-là, c'était sympa. Mais passe des trapézistes canadiens qui viennent un peu montrer leur travail. Et je me dis, tiens, ça me brancherait bien. Donc, j'ai contacté l'école Jean Palassy à Paris. Et j'ai fait du trapèze volant comme sport pendant 4-5 ans, avec les futurs arceaux, donc c'était à la ferme du Buisson à Noisiel. Et là, non seulement j'ai pris goût au trapèze volant, mais en plus j'ai rencontré Cirque Plume, Dromesco, Cirque Baroque, Carcaos, qui étaient là dans ce squat, qui répétaient, donc contact direct avec ses créateurs. Et là, j'ai eu envie de me lancer dans le cirque, en fait.
Enfant, adolescent, tu avais été mis en contact avec les arts vivants ?
À 20 ans, j'ai quand même été directeur de la ferme V à Beaulieu-Saint-Lambert, donc on organisait beaucoup de spectacles de théâtre, de marionnettes, des concerts, donc j'étais en contact avec le milieu en tout cas.
Ah oui, donc tu étais directeur d'un lieu culturel ?
Pendant 4
t'étais
ans.
Pas hein. que
prothésiste.
Que prothésiste dentaire.
J'ai fait la prothèse après être animateur socioculturel.
C'est vrai ?
Ouais, ouais.
Ah, c'était déjà une reconversion.
Oui, oui, oui.
Professionnel de la reconversion ?
oui, tous les 7 ans.
Ouais.
Avec la dernière, c'est le cirque, et là, je suis resté.
Et là, tu es resté après, c'est fini.
Ouais.
Bon, mais merci pour ce début là, d'histoire. Et alors, je voudrais que tu nous parles aussi, si c'est possible, du rôle que tu avais dans Feria Musica.
On est d'abord parti une équipe comme ça en se disant on va créer un spectacle de cirque. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'entre nous, on reproduisait des clichés et on ne se démarquait pas vraiment du cirque contemporain français que je côtoyais presque toutes les semaines à Paris. Et on s'est dit on va faire appel à metteur en scène. Parce que l'idée était de quand même dépasser uniquement les arts du cirque et de les mélanger avec la danse et le théâtre, essayer d'ouvrir le champ de recherche dans le monde du cirque.
Dès le début, il y avait ce souhait de mélanger les disciplines.
Et ça, c'est l'influence. Donc, comme j'étais en contact avec les compagnies françaises, j'ai suivi aussi Bernard Turin, qui était le premier directeur du CNAC, et qui, lui, avait émis trois principes pour le cirque, trois principes à développer, c'est-à-dire l'artiste doit devenir un créateur. Le cirque doit s'élever au niveau du théâtre et de la danse en France, et il doit se renouveler en permanence. Et donc ça a travaillé comme ça dans notre tête. On s'est dirigé vers Dirk Opstahl à l'époque. On lui avait remis une petite maquette qui était complètement ridicule. Et en travaillant avec lui, on a élaboré le premier spectacle qui était Liaison dangereuse et qui était vraiment un renouveau dans le monde du cirque, y compris en France. Il a été reconnu comme vraiment un pas en avant vers le cirque d'aujourd'hui.
À quel niveau ce renouveau? Dans la narration? Dans l'esthétique?
Dans l'esthétique et la narration. En fait, on racontait une histoire sans parler, on racontait un voyage, et donc un rapport qui était perdu avec la terre, donc des gens qui étaient pendus sur une espèce de nacelle comme perdus, des émigrés déjà, des perdus avec leurs valises, quelques objets, et qui entamaient un voyage au travers des structures du trapèze volant et du Nord. Voilà, et puis ce groupe se déplaçait, dès qu'il y en a un qui perd des pieds, tout le groupe l'aidait à reprendre le chemin. Et donc ça racontait l'histoire d'une humanité, en fait, une solidarité, un esprit de groupe. Il n'y avait plus de numéros individuels, chaque action de cirque était intégrée dans l'histoire et dans la scénographie et dans le propos du spectacle.
Et ça, en 95,
c'était un des premiers
à faire ça. Est-ce que c'est dans ce spectacle-là qu'il y avait des chevaux?
Oui. Et donc, le rapport avec le cheval, c'était... On avait repris les trois grands axes du cirque.
Oui.
Le cheval, le trapèze volant et le clown, tu vois.
Ah ouais, des images
d'Épinal comme ça, en les retravaillant. Et en fait, le cheval était en liberté tout le temps. Ben, c'était quand même une fameuse gageure, parce qu'on avait une piste ronde... un tapis pour que les chevaux ne dérapent pas là-dessus du sable, et dans le sable, un réseau de tuyaux qui amenaient du gaz à des foyers. Donc on enflammait la piste régulièrement, et ça provoquait évidemment l'évacuation des chevaux, et nous remontait dans les structures. Et donc l'idée, c'était de se réapproprier le contact avec la terre en redescendant notre structure et de rétablir le contact avec les chevaux qui représentaient la nature sauvage. Voilà, ça c'était la grande idée
de ce premier
spectacle.
Tu as dit déjà les immigrés, parce que je me permets alors de faire le lien avec le dernier spectacle.
Darrel Chagas.
Oui. Ouais.
Et c'était déjà une préoccupation On n'était pas encore dans ces années-là avec les grandes migrations et les drames de Méditerranée. Mais enfin, on sentait quand même qu'il y avait ce problème qui allait surgir et qui allait préoccuper le monde entier, finalement.
Parce que Darrel Chagas, donc le dernier spectacle qui a lieu en 2017...
2014 jusqu'à 2017.
C'est aussi le cœur de ce projet, c'est aussi l'immigration.
Ça ne parle que de ça, en fait. Mais ça, c'était une proposition de l'opéra de... Parce que c'est un opéra. Et c'était une proposition de l'opéra de Limoges. Et donc, on cherchait un thème pour cet opéra. Et moi, je venais de lire Eldorado de Laurent Godet, qui retrace les trajets de ces migrants épouvantables. Là. Et je me dis, c'est quelque chose qui est d'actualité, parce qu'on a toujours voulu garder un regard sur le monde dans tous nos spectacles. C'était un des principes de base. Et donc... on a contacté Laurent Godet en se disant, bon, prix Goncourt et tout, peut-être. Et il nous a répondu tout de suite, et puis on a fait deux, trois rencontres à Paris avec lui. On lui a demandé est-ce qu'on peut avoir les droits d'adapter Eldorado en opéra. Il m'a dit, je vous donne les droits de toute façon, mais j'ai envie d'aller plus loin que Eldorado. J'ai pas envie de refaire l'histoire qui date de 2006. Et donc, il a imaginé une histoire de la création d'un dieu des migrants. Et il a écrit un texte qu'on a soumis alors à Chris de Fourthe qui faisait la musique. Et c'était des échanges pendant 2 ans de préparation de ce livret d'opéra. Voilà. Et il est né finalement. Il a eu pas mal de succès. Il était quand même.
Et la mise en scène?
La mise en scène, c'était Fabrice Murgia, que j'avais rencontré par hasard en allant voir ses spectacles au National, et qui lui a tout de suite marché. Il a découvert le monde du cirque. Il était subjugué par l'investissement des gens de cirque, et il a dit, moi je vais continuer à essayer de travailler avec les circassiens. Je pense qu'il l'a fait à un moment.
Et toi, alors, tu es un communicant, tu arrives à créer le lien avec tout le
Je suis un peu le
monde?
ciment. En fait, j'imagine les techniques de cirque, les scénographies. Je rassemble un metteur en scène, parce que je ne suis pas metteur en scène, un metteur en scène, un chorégraphe, un homme de théâtre et des techniciens. Donc je suis un peu le ciment de tout ça, mais je suis à l'origine quand même des idées de base et de la scénographie qu'on va utiliser.
Porteur de projet.
Voilà,
Et
en
aussi
gros.
producteur.
Oui, on était producteurs, Benoît et moi.
Tu rassembles ces idées, mais tu es aussi producteur et scénographe. Et donc je voudrais savoir un peu quel est ton goût de créer ce qu'on appelle des agrès au cirque. J'ai l'impression que tu as parfois inventé des agrès ou réinventé des agrès et que tu as un rapport très manuel parfois aux choses très concrètes.
Mais c'est-à-dire qu'on a voulu rester des artisans aussi dans nos productions. Donc on voulait que ce qui se passe sur le plateau était un acte collectif et de construction et de manipulation, où tout le groupe était investi et se complétait. Alors, moi je viens du trapèze volant. Le trapèze volant, ça s'est figé comme matériel à utiliser. Donc on voulait sortir de ça et on voulait mélanger un peu toutes les techniques. Donc on a mélangé la bascule avec la réception sur des parois en l'air. On a imaginé des échelles sur des élastiques.
Et ça t'amusait
Et ça
d'aller...
m'amusait, oui, parce que le Calcicolo, le deuxième spectacle, ça part d'une poutre qui est suspendue toute seule devant une palissade. Et avec ces poutres, on construit une structure qui monte à 11 mètres de haut avec les acrobates. Ça ne pouvait être fait que par des acrobates, le spectacle qu'on faisait. Donc, c'était une espèce de caprice architectural, comme c'est une folie humaine de construire, d'aller vers on ne sait où. Et c'était très particulier parce qu'il n'y avait plus d'agrès là, il n'y avait que des poutres, et des cordes, des poulies, un calchincoulo, c'est-à-dire un moulin qui. Voilà. Et on était secondé par un ingénieur qui était vraiment très pointu.
Pour les calculs de force,
Pour
de
les calculs de force
résistance.
et pour la création. C'est lui qui construisait toute notre scénographie.
Ah oui, toi tu construisais pas.
Non, non, on avait un constructeur. Enfin, un constructeur avec qui j'étais en relation tout le temps, parce qu'on était à la roseraie, dans les ateliers. Voilà.
Toi qui as réussi à faire collaborer tant de personnes, est-ce que tu as un truc pour mettre les gens ensemble, pour les faire travailler ensemble, pour qu'il y ait une bonne ambiance?
Ben, ça, je peux pas te dire.
Non?
Je pense que j'aimais bien entretenir des contacts très précis par rapport au projet et tout ça. Et puis j'étais très ouvert aussi. J'étais pas un chef quand même. Je pense que tous nos spectacles, c'est le résultat d'un travail d'équipe qui était le résultat de l'énergie du constructeur, du scénographe, enfin, du metteur en scène et des acrobates et des musiciens, puisqu'il y avait des musiciens sur le plateau aussi.
À chaque fois, musique
À
live.
chaque fois, musique live. Une musique qui était construite au fur et à mesure de la progression de la création. Une création, ça prenait quand même 2-3 ans. Donc, ça créait des liens. Et je pense que voilà, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas d'enjeu d'un chef, de pas chef. Tout s'échangeait, on remettait tout en cause tout le temps. Et ça, c'était une belle énergie, je trouvais.
On va reparler de ces spectacles, mais je vais prendre un peu en biais en te posant des questions. Alors, avec lequel t'as eu le plus peur?
Chaque fois que je voyais mes acrobates, parce que je les mettais en danger quand même, dans le mix des techniques, ils devaient apprendre quand même d'autres techniques associées à la leur. Tu vois, j'avais les mains qui transpiraient pendant chaque spectacle en voyant les moments où je savais qu'ils étaient un peu en danger. Tu vois. Voilà, c'est le rapport que j'ai entretenu parce que j'assistais à tous les spectacles. J'étais tout le temps avec eux.
Tu suivais les représentations, les tournées, t'étais là, quoi. Avec lequel t'as eu les plus grosses galères?
Le plus de galères, c'était peut-être Darrel Chagas, l'opéra. Non, Infundibulum. Infundibulum, qui était quand même aussi une structure assez importante, une espèce d'entonnoir qui montait à 10 mètres de haut, qui était à 2,50 mètres du sol. Il a fallu entraîner les artistes à s'être projetés par cette balançoire russe contre cette paroi et puis dégringoler de 8-9 mètres dans un tas de vêtements. Enfin, ça m'a donné des sueurs froides quand
Oui.
même. Et aussi à la fin, ce mur, parce qu'on parlait d'un mur sur lequel les gens s'accrochaient, éclate et explose sur le plateau. Donc ça demandait une technique précise et très compliquée. Et j'étais angoissé chaque fois. Est-ce qu'elle va exploser? Est-ce qu'elle ne va pas exploser, tu vois? Donc ça, c'est celui qui m'a fait peu dormir
Ah
pendant
oui,
pas
je veux
mal
bien croire.
de nuit. Pour la compagnie, c'était un peu. Le recrutement n'était pas facile parce qu'on demandait aux artistes d'abandonner leur numéro, en fait, et le résultat de leur travail pendant des années.
C'est-à-dire qu'un artiste de cirque, il crée un numéro, il est attaché à ce numéro qui fait dans...
Voilà, s'il est polyvalent, il tient quand même à montrer son numéro. Il y a des gens qui n'ont pas voulu travailler avec nous parce qu'on ne faisait pas le moment de trapèze-ballant, le moment de main à main, comme ça, isolé, tu vois. Donc ça demandait des gens quand même qui soient ouverts à ça. On les a toujours trouvés. Moi, je suis très content des artistes avec qui on a travaillé, mais parfois on contactait des artistes un peu plus performants, plus en vue, et ils étaient trop fermés à leur technique, ou ils n'avaient pas envie de mettre ça en jeu ou participer à une aventure. Quand moi j'arrivais en disant je vais vous jeter sur une paroi à 8 mètres avec une balance russe, ok, bon, à bientôt.
Ça demande de se mettre au service d'un projet collectif,
Ben
quoi.
oui, mais enfin il y avait des enjeux physiques aussi qui étaient très mesurés, on n'a pas fait ça à la légère.
Est-ce que dès le début, et puis dans tous les spectacles de Feria Musica, il y a eu cette envie de grandeur? Je veux dire, c'est pas des petits spectacles avec deux artistes, c'est des choses importantes, lourdes techniquement, c'est une sorte de constance.
Oui, c'est une constante. Mais écoute, il n'y avait pas de grande compagnie cirque belge. Ça s'est décidé dans un bistrot, le pavillon là, à Ixelles. On a dit, on va faire un grand spectacle. Benoît et moi, on buvait des bières. Au plus on buvait, au plus on était sûr qu'on allait faire un grand spectacle. Et c'est démarré comme ça. Alors on a fait cette bric-broc. Moi, j'ai fait des emprunts en hypothéquant ma maison. On a fait des trucs. Il n'y avait pas un bal pour le cirque à l'époque. Donc, il y a des amis qui nous ont prêté de l'argent, choses comme ça. Et on a créé dans une espèce de manège, chapelle, comme ça, Ermalsoui, dans un château. Et on a travaillé pendant des mois là-dedans, avec les chevaux, en grappillant de l'argent à droite et à gauche. Et ce spectacle a cartonné dès les premières représentations. Il y avait des files de voitures sur l'autoroute pour arriver à Ermalsoui, je me souviens. Et encore, il faisait dégueulasse. On avait mis des planches pour sortir au bout d'une prairie. Les gens ils marchaient sur des planches en équilibre pour arriver à cet endroit-là. Enfin, c'était une belle aventure, quoi.
C'était un projet rentable alors, grâce aux entrées de billetterie.
Ça s'est quasi bien équilibré, oui.
T'as pas dû vendre ta maison?
Non. On a remboursé tous nos copains. Et après, ben, on était très en vue avec ce spectacle, même à l'international. Le seul problème, ça a été les feux sur la scène. Donc, on était invité à la Villette. Et ça, les tractations ont duré, puis les pompiers ont dit non. Voilà, on a pu jouer à Berlin quand même, là, ils ont accepté, mais les gens n'osaient pas entreprendre. Et même On a joué au Cirque Royal, et même le responsable des pompiers du Cirque Royal ou le responsable sécurité a dit niette, niette, niette. Alors je l'ai harcelé jusqu'à débarquer dans son bureau en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Pour qu'il accepte le projet en lui expliquant que c'était super safe. À tel point que le commandant des pompiers de l'époque à Bruxelles disait « Moi, je suis prêt à défendre votre spectacle ». C'était très safe, mais impressionnant, évidemment. Je crois que les gens du premier rang, parfois, ils avaient les cils un peu...
Ça sentait un peu
brûlé. Et donc, l'idée de faire une grande compagnie restait, parce qu'on aimait bien travailler en équipe, on trouvait que ça avait du sens dans ce qu'on voulait raconter, la solidarité, le regard sur le monde. Voilà, et ça s'est resté, on l'a tenu bon jusqu'au bout.
Il y a eu la reconnaissance du secteur par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Feria Musica, dont mon souvenir, a été fort soutenu par la Fédération, donc vous avez eu plus de sous.
Oui, mais on a eu des aides déjà avant le décret des arts du cirque.
Ah oui ?
Oui. De 2003 à 2006, on a eu une convention avec la Comédie Française de 50 000 euros par an, ce qui a quand même été le bienvenu parce que nos spectacles coûtaient de plus en plus cher. Et on a aussi eu l'aide de la Fondation BNP Paribas, qui est très, très impliqué dans l'aide au nouveau cirque en France. Mais sa directrice, Martine Tried, elle était tombée amoureuse de Feria Musica à cause de Canchicoulo qu'on avait joué à la Villette. Et donc elle a dit, moi je vous donne 30 000 euros par an pendant 2 ans. Et puis elle est tellement emballée que ça a été jusqu'à la fin.
Jusqu'en
2017, on a reçu 30 000 euros par an.
Elle n'a pas indexé.
Mais non, ça malheureusement. Enfin, c'était déjà très, très bien et bienvenu, quoi. Et alors, c'est en 2008 qu'on a eu le premier contrat programme dans les arts du cirque, je pense, qui était 200 000 euros à l'époque. Et ça crée un peu des frictions avec le milieu, parce qu'ils disaient pourquoi une compagnie à 200 000 et nous, on se partage les miettes. Enfin, c'était un peu difficile à moi de faire face à tout ça, mais bon, c'était justifié par notre travail d'avant, par la grandeur des spectacles. Et puis la création, c'était des créations qui duraient 3 ans. Pour des spectacles. Dans les tournées, parfois, on devait mettre un peu de sous nous-mêmes pour arriver au bout des tournées, des choses comme ça.
Et puis je sens chez toi quand même une certaine opiniâtreté, quoi.
Ah oui, oui, ça je lâche pas. Ouais.
Je voulais justement parler de ce paysage. Comment tu vois, toi, l'évolution quand tu as commencé le cirque? Tu dis, j'ai été à l'école du cirque, à l'école sans filet, créée par Vincent Wauters à XL. C'était des prémices.
C'était les prémices, ouais.
Après, maintenant, il y a Up, Latitude 50, il y a plein de...
Les Zacs,
ouais. Plein d'écoles. Comment tu vois toute cette évolution en tant que... Maintenant que tu as pris un peu de distance?
Écoute, je trouve que l'évolution est intéressante, c'est bien. La première pour laquelle on a participé, c'était la création de l'ESAC quand même, qui était une école qui se structurait bien. Et il y avait des initiatives comme Catastrophe, il y avait l'ASBL Trapèze, tous ces trucs, c'était très petit au départ, et puis ça a été quand même soutenu, c'était un combat de plusieurs années de tous les intervenants pour faire monter la pression au niveau du ministère. Et je pense que maintenant, on est dans une zone de confort intéressante au niveau de la diffusion, au niveau de porteurs de projets, de soutenir des projets, ce qui n'existait pas à l'époque. Ceci dit, nous, notre compagnie, on a vécu les belles années jusqu'en 2008, où là, il y a eu un moment de bascule et de crise.
Il y a eu une crise financière,
Oui. Et là, les subventions dans les théâtres français qui nous ont engagés ont diminué. Les coproductions ont diminué. C'était un peu en cascade. Et je crains qu'aujourd'hui, on retombe dans ce... Enfin, je crains, j'en suis sûr. On est là avec quand même des gens au gouvernement qui... préférer ne pas avoir de ministre de la Culture pour faire comme les Américains, qui disent qu'il faut créer dans la douleur pour vraiment être créateur. Un discours complètement aberrant et imbécile, je dirais.
Un autre pan important du parcours de Philippe est la création de lieux et de structures aux finalités artistiques et sociales qui, contrairement à Feria Musica, sont toujours en activité. Il y a La Roseraie, lieu de création et de diffusion, dirigé par Emmanuel Van Overskelt, plus connu sous le nom de Emma de la Roseraie, et l'ASBL Trapèze, qui, sans trop vous spoiler la chose, propose d'apprendre le trapèze à qui le désire.
L'ASBL Trapèze, elle a été créée en 88 parce que j'étais à l'école de cirque, enfin l'école de trapèze volant à Paris, et on voulait un endroit pour répéter ici à Bruxelles. Donc j'ai toqué à la porte de chez Piquet, qui m'a donné le gymnase de l'école 4, place de Bethléem. Et là, on a fait une installation et on a commencé à s'entraîner. Mais c'était le moment des émeutes en 90 dans les quartiers, et on avait une belle aura dans le quartier. Les jeunes, ils voyaient les trapèzes volants, ils trouvaient ça super. Et on s'est dit, on va créer un... Parce que c'était pas vraiment une école de trapèze. Ça n'est toujours pas vraiment une école de trapèze volant. C'est plutôt un centre où on accueille les gens du quartier, les jeunes du quartier. Et on fait un travail de cohésion sociale. On est dans ces programmes-là, encore maintenant. Et l'idée, c'était qu'avec le trapèze volant, on pouvait travailler avec des groupes de 8 à 9 personnes, avec une technique de cirque qui... demander une attention à l'autre et une complémentarité des actes. Et donc, ça restructurait un peu les rapports entre les jeunes du quartier. Ça, ça a marché et ça marche toujours. Et donc, c'est à partir de la SBL Trapèze qu'on a rencontré des trapézistes et puis Benoît Louis et qu'on a imaginé Feria Musica. Alors, Feria Musica avait des chevaux. Et on était à Hermalsoui. Après, on devait quitter Hermalsoui. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces shows et toute la structure du spectacle? J'ai loué pour 250 € l'hippodrome de Boisfort pendant un an. 250 € par mois. Ils étaient en faillite. J'étais voir le curateur et dit, allez-y. Et donc, on était là pendant un an. Puis, on a dû quitter. Et c'est là qu'on est arrivé à la Roseraie avec nos chevaux.
Il y avait quoi à la Roseraie quand vous êtes arrivé?
Rien. Il y avait toujours les plaines de jeux pour les enfants de Saint-Gilles pendant les congés scolaires. C'est priorité aux enfants de Saint-Gilles qui viennent faire des animations.
Ouais.
Voilà. Et il y avait un vide là et j'ai piqué. On me dit, mais il y a la Roseraie, si ça t'intéresse, on peut faire un deal. Et j'ai signé une convention de 17 ans pour la Roseraie. Et c'est comme ça que ça a démarré, la Roseraie.
Et est-ce que l'actuelle directrice de la Roseraie, Emma, un personnage emblématique dans le cirque, est-ce qu'elle était déjà là?
Elle était déjà là parce qu'elle était la cuisinière de Feria Musica pendant la création de Liaisons dangereuses. Et puis comme nous, elle nous a suivis et comme la Roseraie devenait un peu étroite pour nous, on s'est dit, mais on va l'ouvrir à des petites compagnies amies. On a d'abord reçu des petites compagnies qu'on connaissait. Et puis, il fallait mettre quelqu'un à la tête. Et Emma a pris tout de suite la direction de la Roseraie et l'a développée comme on la connaît aujourd'hui.
Waouh, beau parcours.
À ce moment, on est assis dans le salon. L'espace est grand et nos tasses sont vides. On arrive à la fin de l'entretien. Philippe sort un livre édité par l'équipe de Feria Musica lors de la sortie de Daral Saga en 2014. L'auteur du spectacle, Laurent Godet, y avait écrit ceci.
Voir un acteur s'emparer de mes mots est toujours un moment d'émotion. C'est pour cela que j'écris au théâtre. Pour ce moment précis où la voix d'un comédien se saisit de mes mots, les porte et les transforme. Mais il y a une émotion particulière et que je n'avais encore jamais ressentie à voir des acrobates s'emparer de mes mots, car ils l'ont fait. Dans leur corps, par leur mouvement, ils ont intégré mon texte et dans leur voltige, leur saut, leur marche accidentée, ce sont mes mots aussi qui étaient donnés à voir.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dis? Je voudrais pas finir sans...
Écoute, non. J'ai pris de la distance, un peu par fatigue personnelle.
C'est fatigant comme métier?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai quand même tenu le coup jusqu'à 68 ans. C'est quand même assez rude, mais je me pose beaucoup de questions sur l'avenir du cirque et des arts vivants en général, avec les politiques qu'on mène maintenant. Et je suis de près quand même ce qui se passe. Et j'encourage tous mes anciens collègues et tout ça à continuer la lutte pour défendre quand même ces airs qui sont de défendre la culture, qui est quand même le ciment de nos sociétés. Donc c'est ça qui me préoccupe maintenant. Voilà.
Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté toutes ces années à consacrer à ça, au cirque, à créer des spectacles?
Ça m'a rendu confiant dans le fait d'oser les choses, d'aller jusqu'au bout des choses et de toujours remettre le projet sur le, dans le travail, tu vois, de jamais se figer dans une situation et d'aller de l'avant, de créer un équilibre et de provoquer le déséquilibre. C'est ça, le c'est ça qui m'a toujours passionné et ça m'a conforté dans l'idée que c'était possible.
Merci Philippe.
Avec plaisir.
C'est ainsi que se termine cet épisode de L'Art de passer. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Vous pouvez retrouver et partager tous les épisodes sur le site lartdepasser.be ou via toutes les plateformes d'écoute. Il m'aurait été impossible de fabriquer cela tout seul. Leslie Doumerx a assuré la prise de son et la réalisation, au montage et mixage Arthur Lacombe, et les musiques sont de Mathieu Tonnant. L'Art de passer est une production de la compagnie des Vrais Majors, coproduit par Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, avec le soutien financier d'Air Libre, Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains, et le soutien technique de Radio Panique et Radio Campus. Sincère remerciement à toutes et à tous. À bientôt pour la suite. Et alors, il y a une autre anecdote qui m'est venue. C'est à propos d'une évasion à la prison de Saint-Gilles.
Ah, ouais. Mais écoute, nous, on faisait un travail de quartier, donc on avait des jeunes du quartier qui parfois tombaient dans la délinquance, et notamment un très très bon trapéziste, et auquel j'étais très fort lié, Nordine Benadal. Et Nordine, ben, il fur et à mesure, le crescendo est monté dans ses tentatives de je ne sais pas très bien quoi. Et il a été pris et il a été mis enfermé, mais il a pris 30 ans. Il a essayé plusieurs fois de s'évader, et un jour il s'est évadé, je ne sais pas, avec un tissu, quoi. Et dans le journal, il était marqué, grâce à l'enseignement de son professeur de trapèze, l'ennemi public numéro 1 a pu s'évader de la prison.